Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on est avec Charles Gave, hein, ça c'est comme toujours.
Je dors ici.
Voilà, exactement, vous avez un petit lit juste à côté du studio, là, juste en sortant, comme ça, voilà, circuit court.
Je fais que travailler.
Voilà, exactement. Mais nous avons aussi un invité qui est Sylvain Tiget. Bonjour Sylvain.
Salut Léonard, salut Charles.
Alors, aujourd'hui, alors dans cette vidéo, ça peut partir un petit peu n'importe où. Hein. On peut parler de tout et de rien.
Ça va partir.
On va commencer quand même par parler de toi, déjà. Ouais. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire quelles sont tes activités, enfin, un petit peu tout ça, quoi.
Bon, ben messieurs, c'est comme ce que je vous disais déjà, merci de me recevoir. C'est difficile de me mettre dans une case parce que j'ai un parcours déjà qui est assez atypique.
Ouais, voilà, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs.
Exactement. Oui. Alors, pour faire le parcours complet, donc moi j'ai fait un parcours franco-allemand, donc depuis que j'ai fait mes études, depuis le collège. J'ai appris l'allemand parce que, en gros, quand on est en France, quand vous choisissez l'allemand, c'est les classes où on met les meilleurs élèves. Ça permet ça permet tout de suite de, surtout quand vos parents sont très axés sur les études comme les miens, hein, parce que famille indienne, tu veux forcément que tes enfants réussissent et tu veux qu'ils travaillent bien à l'école. Donc, j'ai fait un parcours qui s'appelle le parcours Abibac. C'est un truc qui a été créé par l'éducation nationale plus l'éducation allemande. Et en fait, c'est des parcours où vous avez des élèves qui, au lycée, vont passer leur bac français, donc bac moins scientifique en l'occurrence, mais qui vont également passer l'abitur, donc le baccalauréat allemand. Donc en fait, vous avez plus de cours que les autres, donc vous faites votre histoire géo en allemand, vous apprenez la littérature allemande, l'histoire de l'Allemagne, etc., mais en plus de celle de la France. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous créez, en fait, ils ont voulu créer une espèce de, je pense, élite franco-allemande, parce que j'ai beaucoup, moi, d'anciens camarades de ma promo qui sont qui ont fait Sciences Po, qui bossent pour certains à Bruxelles, donc ils ont voulu créer un espèce de truc comme ça. J'ai fait ça, donc j'ai eu mes deux bacs, un en français, un en allemand scientifique, et études supérieures, j'ai fait une école de commerce, finance de marché, spécialisation à Francfort, donc je suis parti en Allemagne pendant un an et demi. Et à la suite de ça, j'ai commencé à bosser à Paris chez FXCM, donc c'était un courtier américain en bourse au sein du département recherche dédié FX France, et j'ai été formé par l'excellent Vincent Gaine, que je salue, qui m'a donné ma chance et puis qui m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, quoi.
Et aujourd'hui, tu fais quoi?
Aujourd'hui, j'ai monté Ultra Bourse. C'est une société où je fais de la formation et où je produis des lettres économiques avec mon ami Olivier Delamarche. C'est une aventure un peu pareil, un petit peu par hasard.
La vie n'est faite que de hasard.
La vie n'est faite que de hasard. Je suis rentré en France en 2020 parce que, alors, à l'époque, j'étais à Dubaï. Je travaillais à Dubaï pour une entreprise française. Je rencontre ma femme à Nice en 2019. Donc, c'est marrant parce que j'étais à la base à Nice 6 mois avant d'être muté à Dubaï. Je la rencontre en septembre, je pars en décembre. Donc je la rencontre en septembre, je pars en décembre, ça fait 1 an que je prépare mon départ à Dubaï. J'arrive là-bas, en plus j'adore, c'est hyper libéral, donc ça va super vite, environnement business hyper stimulant. Et à l'époque, on n'avait pas le droit d'habiter avec quelqu'un du sexe opposé quand on n'était pas marié. Ça, c'est une loi qui a changé à Dubaï, maintenant on pouvait, mais à l'époque on pouvait pas. Et donc je me dis, j'ai deux solutions en 2020. Soit on se marie, mais ça fait 4 mois qu'on se connaît, donc c'est un petit peu... Le risk management est pas très bon. Soit il y en a un des deux qui fait un sacrifice. À l'époque, elle n'était pas encore directrice de crèche, elle était infirmière. Elle pouvait retrouver du boulot à Dubaï, mais bon, de toute façon, je sentais aussi que c'était une culture. Bon, c'était un peu de changement pour elle. Je me dis, bon, moi, je vais rentrer, je vais démissionner, puis je vais monter mes entreprises. Parce que j'ai toujours été, ce que je dis souvent, je suis un très mauvais salarié, mais je suis un très bon chef d'entreprise. Je suis bon en direction, mais je suis nul en prendre des ordres et fermer ma gueule, quoi. Donc, j'avais préparé déjà mon départ et j'avais commencé à monter mes activités avec un de mes associés en parallèle dans mon boulot. Donc, en gros, je faisais ma journée de travail 9h-18h et 18h-23h, je bossais sur la boîte. Je démissionne, je plaque tout. Et puis, en fait, le move le plus intéressant là-dedans, c'est quand même un move un peu fou quand j'y repense. J'étais à Dubaï dans mon appart, il était 22h et je regardais des vidéos et puis... À l'époque, il y avait la crise du Covid. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, j'ai eu une illumination comme ça. Je me dis, au final, c'était un bon move. Je me disais, attends, quel risque je prends à quitter mon boulot et à monter mon entreprise dans une crise? Parce qu'au final, vu que les conditions économiques sont pourries aujourd'hui, en fait, tout est fermé. Si je rate, au pire, je vais rechercher un boulot. Et qu'est-ce que je dirais au patron? Je dirais, écoute, j'ai monté une entreprise en crise, j'ai raté. Il va me dire, oui, normal. Et si je réussis? Je réussis dans un marché qui est dur. Donc, en fait, quand le marché sera mieux... Logiquement, en fait, j'ai tout l'upside pour moi.
Ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire que la plupart des créations d'entreprises se passent pendant les récessions et les dépressions. Par exemple, Bill Gates a commenté en 1974, Steve Jobs en 81, 82. Mmh. Tout, donc tout ça, c'est des moments où tout s'écroule. Il y a des gars qui disent, bon, ben, j'ai plus rien à perdre, je vais tenter ma chance.
Et en fait, j'avais calculé mon et je me suis dit, bon, ben, j'ai que de l'upside, parce qu'au final, j'ai 26 ans, je suis plutôt bon dans ce que je fais, j'ai un bon réseau. Si demain, j'ai besoin de bosser en banque, ben, écoute, je passe un coup de fil, j'y vais. Donc je me dis, bon, ben, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, j'y vais. Ça s'est bien passé, on a monté deux entreprises, les deux ont été rentables. J'ai revendu mes parts d'une de mes entreprises à un ancien associé l'année dernière, parce que je compte quitter la France. Et c'était une entreprise dans l'immobilier, donc pas trop d'intérêt pour moi de rester dans l'exécution de ce projet-là. Et voilà, et maintenant je suis à 100% sur les travaux.
Et du côté de votre famille, alors vous avez une partie de votre famille qui est de Pondichéry,
ouais.
Et puis l'autre qui est française.
Les
deux sont de Pondichéry.
Les deux sont de Pondichéry. En fait, c'est alors côté de ma mère.
Père et mère.
Père et mère, ouais, les deux sont de Pondichéry. Donc, mère, mon grand-père est militaire dans l'armée française, adjudant-chef. Ma grand-mère, du coup, est femme au foyer, comme à l'époque. Hein.
Oui, c'est sûr.
Ils ont été à Djibouti. Enfin, ma mère est née à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, dans le Var. Ils ont été à Djibouti, puis après il est mort dans un attentat en fonction. Avion qui a explosé, donc. Voilà, hein, ça c'est la vie.
Ah ben, d'un militaire, hein, parce que disait mon cher père qui était militaire, il n'y a rien à foutre dans l'armée, de temps en temps c'est dangereux, mais sinon c'est...
Voilà, donc ça c'est du côté de ma mère, donc, et puis mes oncles, tout le monde est militaire de ce côté-là. Et du côté de mon père, mon grand-père pareil est français, prof à l'université, ils ont été en Algérie, donc mon père il est né à Pondichéry, mais très tôt je crois qu'il était en Algérie, je ne sais même pas s'il n'est pas né en Algérie. Ensuite, ils ont fait Djibouti un petit peu comme tout le monde. Puis ensuite, lui, il s'est engagé dans l'armée à 17 ans. Il est venu en métropole. Il était déjà français, hein. Mais voilà, il s'est engagé dans l'armée. Et lui, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il a été partout au Tchad. Il a fait la guerre du Golfe. Enfin bref, il fait beaucoup de choses, lui.
Et donc, vous êtes donc l'héritier d'une de ces... Il faut ça pour ceux qui ne le savent pas. Pondichéry, c'était un des 5 comptoirs français de l'Inde que l'Angleterre avait bien voulu nous laisser quand ils nous ont piqué les Indes il y a... bien longtemps. Et donc, il y avait 5 comptoirs. Il y a Guibert qui avait fait une chanson charmante sur les 5 comptoirs. Vous l'avez connaissez peut-être d'ailleurs.
Elle est très... Yaka, Chama, Pont. C'est les comptoirs.
Les 5 comptoirs. Vous êtes d'une de ces familles-là. Donc, vous êtes français depuis des siècles.
Au moins 3 générations de ce que j'en sais. Peut-être même avant. Mmh. Mais alors, avant, j'ai pas l'historique. Mais au moins depuis les grands-pères. Ouais.
Donc, vous êtes français. Vous êtes donc français de choix. Mmh. Mais d'un endroit où la plupart des français ne savent même pas qu'il y avait des français. C'est quand même rigolo. Ouais. Et vous vous retrouvez aujourd'hui en France. Et vous devez être un petit peu déchiré, si j'ose dire. Parce que vous avez fait vos études en France. Vous vous sentez français. Mais de l'autre côté, comme on ne cesse de le dire à tous ceux qui veulent bien nous écouter, la plupart des opportunités sont plutôt du côté de l'Inde aujourd'hui. Il y a moins d'opportunités en France que là-bas. Donc j'imagine que dans votre idée, vous allez à un de ces 4 aller faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe.
Ah non seulement faire un tour, mais je vais même y aller cette année. C'est ce qu'on se disait justement avant la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être français... enfin. L'Inde et la France ont beaucoup de similitudes de façon culturelle, mais aussi beaucoup de différences. Mmh. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que pour moi, je suis persuadé que dans la psychologie indienne, la démocratie, c'est pas quelque chose en fait d'évident. C'est-à-dire que c'est une psychologie où en fait les Indiens, pour moi, hein, inconsciemment, aiment avoir toujours un roi en fait, parce qu'il y a toujours cette espèce de psychologie du celui qui est au-dessus va donner à celui qui est en dessous et je le sens en fait assez. C'est pas comme en France où vous avez des pouvoirs individuels très forts. Là-bas, c'est des collectivités. Et dans la collectivité, on est lié à un chef. Et le chef est garant un petit peu du... C'est-à-dire le père, ou voilà. Est garant du bien-être de tout son entourage. Donc, si c'est une grande famille. Voilà. Et donc c'est un choix aussi d'être français. Parce que moi, ma famille, enfin, et mes familles, mais je parlais par exemple du côté de mon père. Pour devenir français, à l'époque, à Pondichéry, il fallait renoncer à sa caste. C'est-à-dire qu'en Inde, vous avez des systèmes de castes. Alors, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. C'est pas, il y a 4 castes. En fait, il y en a des milliers des castes, parce que dans les castes, il y a des sous-castes, et entre le nord et le sud, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais globalement, nous, on venait d'une très bonne caste, de ce que j'ai compris. Et au moment de devenir français, vu que tous les Français sont égaux, on ne peut pas dire...
Je suis plus égal que les autres.
Je suis plus égal que les autres. Ça ne marche pas comme ça. Donc, au moment de devenir français, il fallait abandonner sa caste et choisir un nom de famille. Et ensuite, tu recommences à zéro, quoi. Mmh. Et donc, et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément d'Indiens qui sont français. C'est parce que c'est un vrai choix. C'est-à-dire qu'il faut se couper de l'hindouisme et de toute cette culture, et de se dire, ok, bah, je fais le choix d'adopter les valeurs françaises, puis bah, forcément, t'es un petit peu aussi différent.
Est-ce que vous avez adopté aussi le christianisme ?
Comment ?
Le christianisme, vous avez fait partie du package ?
Alors, compliqué ça aussi, parce que ma mère était à l'école des bonnes sœurs, donc elle est chrétienne de ce côté-là, mais en même temps, elle est hindoue. Donc c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai jamais compris ce qu'on faisait. Ah, oui. Moi, ce que je dis souvent à ma mère, c'est que je lui dis, tu sais, j'ai l'impression que t'as une carte fidélité chez toutes les divinités, parce que tu vas aller au paradis quoi qu'il arrive. Mais ça marche pas comme ça, maman.
C'est un truc qui existe un petit peu aussi en France, c'est ce qu'on appelle les religieux multicartes. Ouais,
c'est un portefeuille antifragile de ce point de vue-là.
C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit, toi, tu t'as vraiment envie d'aller au paradis, parce qu'elle a été, pareil, en Israël pour voir ma sœur quand elle étudiait là-bas. Elle a ramené le truc des judaïques, vous savez, que vous mettez devant la porte et vous...
Ah oui, pour pas avoir enlevé le mauvais oeil.
Voilà, et là, j'ai regardé, j'ai dit, mais t'as vraiment toute la collection de toutes les religions, quoi. C'est... Donc oui, il y a eu ce côté chrétien, enfin, du côté de ma mère, en tout cas, elle a été dans l'école... des bonnes sœurs, etc. Et du côté de mon père, non, lui, il est très cartésien, lui. Donc, lui fait semblant de croire pour ma mère, quoi.
D'accord. c'est comme ça dans beaucoup de familles.
Oui, c'est ça.
Autour de vous en France, si vous voulez, pendant que les femmes allaient à l'église, les hommes allaient au café, quoi. C'était voilà, en fait.
C'est un petit peu le même.
Pour les attendre à la sortie.
Donc, alors maintenant vous vous retrouvez, vous allez faire un tour en Inde maintenant pour voir un petit peu. Depuis combien de temps vous y allez tout le temps en Inde ou vous avez...
Non, alors mes parents, mes parents et ma famille, ils vont assez souvent. Moi, j'étais fâché avec l'Inde. Alors, j'ai une histoire assez particulière avec le pays. Quand on était petit, mon père nous a amené en Inde pour qu'on se rende compte de la chance qu'on a d'être en France. Mmh. Dans la mesure où, comme tous les enfants, des fois on fait des caprices. Je veux pas aller à l'école, ceci, cela. Bon, très bien. Aux alentours de 5-6 ans, il nous a ramené, on allait en vacances en Inde, et forcément, on a un peu de pouvoir d'achat, donc on n'était pas non plus les plus à plaindre. Et on est allé dans des bidonvilles. Bah, de toute façon, tu marches, enfin, à l'époque, tu marchais, puis tu pouvais tomber d'une rue à l'autre, à des gens qui vivent dans des maisons de paille, enfin, voilà. Gamin, avec un bras en moins, qui mendie, enfin, bref, des histoires. Et il me dit, vous voyez, ça, ces enfants-là, bah, ça pourrait être vous. Et effectivement, tu te projettes assez facilement parce qu'ils te ressemblent, en fait. Et tu te dis, j'ai eu une chance statistique qui est que je suis né d'un géniteur qui, mine de rien, mais c'est du pur hasard. C'est-à-dire que j'aurais pu naître, enfin, il y a 1 milliard d'Indiens, j'aurais pu naître, chez lui, en fait. Et j'aurais eu plus de chance statistiquement d'ailleurs de naître chez lui que chez moi, donc en fait j'ai de la chance. Et il me dit, tu vois ces gens-là, ils vont travailler pendant 1 an pour payer des études à leurs enfants, pour qu'ils puissent avoir un uniforme et des cahiers et étudier. Et là je me suis dit, ah ouais putain en fait, c'est-à-dire que eux ils vont faire des sacrifices de fou, ils vont prendre des crédits des fois pour que les enfants étudient, et l'enfant il a intérêt de réussir, parce que s'il rate, c'est tout l'argent de la famille qui est en l'air, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de suicides chez les Indiens dans les études, hein. C'est parce que les mecs, ils sont obligés de réussir, sinon c'est la mort. Et ça, forcément, moi, ça m'a un petit peu... c'est pour ça que j'ai toujours... l'éducation a toujours été très importante pour moi, et à mes 15 ans, à force de voir tout le temps des disparités sociales, j'étais plus habitué à ça. Je grandis en France et puis je vois autant de disparités en Inde, puis des injustices aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que les classes sociales en Inde, c'est très exemple concret. Ça, c'est un truc qui peut paraître choquant quand je vais vous le raconter là, mais en vrai, c'est comme ça que ça marche. Dans les vieilles familles, ça marche d'ailleurs toujours comme ça. On ne mange pas avec des gens qui sont pas de notre caste, d'une caste inférieure. Donc par exemple, moi je m'amusais beaucoup avec le fils de la servante. À l'époque où ma grand-mère était là, c'est un gars qui est très bien, il a très bien réussi. Et un jour on devait manger, donc je lui dis viens mange avec moi. Il me dit non, je mange par terre. Enfin, il mangeait par terre, moi je mangeais sur la table. Je lui dis mais non, c'est bon, viens. Enfin, je comprenais pas pourquoi il me disait qu'il voulait manger par terre en fait. Il mange par terre, et puis là, en fait, il y a ma grand-mère qui venait à l'époque et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe, machin, enfin, elle l'engueule, et puis lui, il dit, désolé, machin, et puis il se remet à manger par terre. Moi, ça m'avait choqué à l'époque, mais ensuite, mes parents m'ont expliqué que culturellement, en fait, ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les anciennes familles, c'est comme ça. Alors, les jeunes le font plus maintenant, enfin, ou le font de moins en moins. Mais dans les familles à l'ancienne, c'est vraiment comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des histoires où, dans les bonnes familles, bonnes familles, tout est relatif, mais dans un restaurant, le cuisinier est un intouchable, ils vont pas manger. Ils vont pas dans le resto. Donc ça, c'est des trucs qui sont tellement à l'opposé de ce que moi je pense, de ce que moi je considère, que je me suis dit, j'étais un peu en grève. J'étais un peu en guerre contre mon pays d'origine, et en me disant, écoute, de toute façon, là, j'accroche pas avec ça. Mmh. J'accroche pas avec ça parce que je vois pas pourquoi je devrais le détester ou pas lui parler. Et j'y suis retourné par hasard pour l'enterrement de mon oncle il y a 2 ans. Le pays en 15 ans a totalement changé. Alors j'étais frappé parce que je me dis bon, je vais atterrir, je passais par Dubaï, ensuite j'arrive à Chennai. Je me dis bon bah pareil, j'avais l'image de quand j'avais 15 ans, c'est, ça pue, c'est dégueulasse, c'est la merde, il y a des mecs qui mendient. Et là je vois des routes impeccables, un aéroport nickel, les gens, enfin je sais pas en fait, je me serais cru limite en Europe. Je me dis ok d'accord, mais je me dis bon c'est peut-être juste Chennai qui s'est développé parce que voilà. On va à Pondichéry, puis je me dis, bon, Pondichéry, je me rappelle, il y avait des endroits qui étaient beaux, d'autres qui étaient moins beaux. C'est, plus tu t'approchais des quartiers, entre guillemets, anciens colons, plus c'était joli, les belles maisons coloniales étaient un machin, et puis plus tu t'en allais, plus c'était moche. Et là, je vois toute la ville est nickel. Je me dis, putain, belle voiture, les gens ont l'air éduqués, il n'y a plus beaucoup de gens dans la misère. Puis je vois aussi les prix, donc je me dis, putain, tout a monté aussi. Je me dis, allez, d'accord, c'est quasiment le prix que chez nous, quoi. Ah ouais. Et là, j'ai eu la première claque et je me suis dit, oula, il y a un truc qui se passe, ça m'intéresse. J'y retourne l'année dernière pour mon mariage. Donc, on se marie en France en avril et puis on va en Inde pour se marier en août. Et en plus, on fait le nord et le sud. Et je veux voir qu'en fait, le pays est, enfin, je me dis, ils sont limite même plus avancés que nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui allons aller en tourisme. Enfin, avant, on allait en tourisme chez eux. Maintenant, c'est eux qui viennent. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de, enfin, ils commencent à avoir du pognon. Et puis, ils sont smart. C'est-à-dire que l'Indien moyen, ça m'a frappé aussi. Tu prends même un chauffeur de taxi. On a parlé géopolitique. Le mec avait tout compris. Je me dis, putain, mais je me dis, si le mec moyen a ce degré de culture et de compréhension du monde.
Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que, ils sont au début, donc, dans leur phase d'expansion, et je crois honnêtement qu'ils sont curieux du reste du monde. Tandis que, quand je viens maintenant en Europe, je me rends compte assez facilement que les classes éduquées, ils sont intéressés à aller par ce qui se passe autour du palais de l'Élysée, mais ce qui passe dans le reste du monde, ça ne les intéresse pas du tout, du tout. Donc, nous, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pendant que le reste du monde s'ouvrait, nous, on se referme et on a été, la civilisation chrétienne a été la seule à s'intéresser aux autres et à lancer des études sur les autres. C'est-à-dire qu'on avait un département d'études de sinologues, on avait des gens qui s'intéressaient à l'Inde, on avait des gens qui s'intéressaient au Moyen-Orient, mais on avait l'école de Jérusalem. On avait vraiment formé des gens qui regardaient les autres et qui nous en parlaient. Et j'ai l'impression que c'est en train, à la limite, d'ici quelques temps, il va y avoir des spécialistes des études française en Inde, qui viendront regarder les paysans français comment ils vivent.
Et c'est exactement ça. Et alors, ce qui est bien par contre, et c'est une super nouvelle, c'est qu'il y a une vraie prime à être français en Inde. C'est-à-dire qu'ils adorent les Français. Et pour cause, l'histoire de la France et de l'Inde n'a jamais été une histoire sanguinaire. Contrairement en fait aux relations que peuvent avoir les Indiens avec la Grande-Bretagne, qui a quand même pas mal humilié les Indiens, et puis c'est vrai que les Indiens sont quand même assez fiers, donc ils le gardent. La France n'a jamais été mauvaise avec l'Inde, et donc ils ont une très très bonne image. Il y a une prime à être français en fait en Inde. Vous dites que vous êtes français, vous serez bien reçu partout. Mais on vous ouvrira les portes partout.
Et je crois aussi, c'est parce que pour une autre raison aussi, c'est qu'ils sont... ils avaient cette présence pesante de l'Angleterre, qui a été remplacée du point de vue géopolitique un petit peu par la présence américaine, qui est tout aussi pesante. Pour cette raison-là, ils ont eu des relations privilégiées avec l'Union soviétique ou la Russie, qui, par exemple, dans le domaine de l'armement, etc. Donc, ils ont toujours gardé un peu, au point de vue géopolitique, les Français un peu comme les gars qui pourraient les aider s'ils étaient fâchés, soit avec les Américains, soit avec les Russes, ou pour faire un peu la balance entre les deux. Quoi. Ça m'a toujours surpris, cette façon qu'ils sont. Parce que, par exemple, on a des relations militaires avec eux qui sont assez fortes.
Oui, on leur achète, enfin, l'Inde achète des rafales.
Des sous-marins, des trucs, et puis on fait beaucoup d'échanges de technologies. Donc ça m'intéresse de voir qu'ils considèrent qu'on est un peu quelque chose d'un substitut, c'est-à-dire que quand les Américains ou les Russes les font trop brères, ils disent bon ben on va passer des commandes en français. Tiens.
Oui, c'est ça. Et puis après, d'un point de vue culturel, bon, c'est vrai qu'ils ont cette image de la France intellectuelle et raffinée. Alors c'est marrant, ça, j'en parlais avec eux parce qu'on y allait avec des amis en fait, et je me disais, s'ils savaient le biocapital humain, les jeunes en France, c'est juste des gars qui regardent TikTok et qui fument des joints en jouant FIFA, enfin ils se rendent pas compte, parce que dans leur tête ils disent les Français sont raffinés, lisent des bouquins, boivent du bon vin, ils parlent d'art toute la journée. Et je me disais,
il y en a encore.
Ouais. Alors, il y en a.
Pas l'art.
Voilà.
Enfin, le vin bricolé et.
Ça oui. Et ça me fait rire parce que je me disais, mais et ça, je le disais à ma femme, je disais, mais ils vont, enfin, leur jeunesse va nous bouffer. Il faut absolument que nos gosses ils soient dans un environnement comme ça, parce que sinon, on va partir avec un désavantage trop grand, en fait. Enfin, à long terme, on va forcément se faire bouffer. Vous voyez les meilleurs tests de mathématiques et dans les grandes universités américaines, il y a énormément d'asiatiques, en fait. Hein. C'est coréen.
Et ce qui est amusant, c'est ce qui m'a toujours surpris d'ailleurs, c'est vous avez deux ou trois nations qui ont des matheux. Vous avez les Russes, vous avez les Indiens, vous avez les Français. Et c'était ces trois nations de matheux. Et c'était rigolo parce que vous les trouvez maintenant dans l'industrie informatique partout.
Mmh. Mmh. C'est ça, parce que, après, oui, c'est.
Vous étiez matheux, vous ?
Oui, moi j'aime bien. C'est pour ça que j'ai choisi cette industrie aussi, hein, la finance. Mais c'est parce que ça, alors ça c'est culturel, mais je pense que c'est un petit peu partout dans toutes les familles asiatiques. C'est pour réussir, il faut que ton enfant soit médecin ou ingénieur. Donc moi, c'est vrai que quand j'étais petit et que quand j'ai dit à mes parents que je voulais pas faire médecine ni ingénieur, ils ont tiré la gueule au début.
Enfin, alors, une question importante, puisque vous êtes indien, que vous devez tout savoir sur ce pays et tout. C'est les Indiens qui ont inventé le zéro ?
Alors, pour l'Inde, oui. Pour l'Inde, oui. Les échecs, pareil.
Les échecs, comment c'est ça ?
Zéro, alors, les Indiens vont vous défendre bec et ongle à la vie et à la mort que oui, c'est eux qui l'ont inventé et qu'ensuite les Perses l'ont récupéré quand ils ont fait leur invasion.
Et puis après les Arabes.
Les Perses et ensuite les Arabes, dans ce sens-là, oui.
Ah oui, donc...
Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que j'ai fait aussi pas mal de... Enfin, j'ai fait quelques musées et tout quand on a été en Inde, et quand on voit l'histoire, en fait, de ce pays... C'est un pays qui a vécu par ses rois, c'était absolument incroyable en fait. Hein. C'était des empires énormes, et ils sont fait juste dépasser technologiquement quand les Anglais sont arrivés en fait. Ça c'est con. Mais comme quoi, enfin, un pays doit toujours privilégier les sciences, ça c'est hyper important. Et,
ouais, c'est une condition de la puissance. Aussi, hein.
À partir du moment où on a dominé l'armement, etc., on a conquis le monde quoi. C'était la mitrailleuse, si
et
vous
c'est
voulez,
peut-être ça aussi qu'il faut. Enfin, c'est ça qu'il faut qu'on refasse en France. Il faut urgemment qu'on réintellectualise la France en fait en attirant tous ces talents, parce que tous nos talents. Alors, il y a des crédits d'impôt recherche. Vous montez une boîte de recherche et développement en France, vous avez des crédits d'impôt. En fait, vous payez pas d'impôt, mais pour choper ces crédits d'impôt ou ces aides, c'est un parcours du combattant. Il existe même des entreprises qui sont spécialisées dans le fait de faire des dossiers pour choper des subventions. Trop compliqué. Ils vont tous aux États-Unis, ce mec-là. États-Unis, ou ils vont en Asie, parce que ça va beaucoup plus vite.
Et c'est tout à fait exact. Et ça, on voit arriver. Vous allez, par exemple, dans la Silicon Valley. Bon, la moitié des ingénieurs, vous avez l'impression, sont français. Vous allez en Floride, il y a que des Français. Vous allez à New York, il y a que des Français.
Et vous allez à Hong Kong aussi. Il y a que des Français.
Il y a plus de Français que d'Anglais maintenant.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelques amis en finance, pareil. Ils bossent à Hong Kong. Ils ont des salaires super. Qualité de vie qui est impeccable. Alors, oui, effectivement, la vie coûte cher. Ils sont très contents. Ils reviennent.
La vie coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est l'immobilier.
Oui. Se
loger coûte très cher.
Mais après, il faut payer l'école privée pour les enfants, machin. Mm-hmm. Bon, après, il y a un package, mais jamais ils reviendront en France, ces gens-là.
Jamais.
Ils sont trop confortables.
C'est assez intéressant ce que tu racontes sur le fait que t'es vu l'Inde évoluer en l'espace d'une quinzaine d'années.
C'est énorme.
C'est marrant parce que moi, je me disais, nous, par exemple, dans notre culture en général occidentale, peut-être la dernière œuvre culturelle qui parlait de l'Inde, c'était justement Slumdog Millionaire. Et je crois qu'il est sorti à peu près il y a 15 ans aussi. Et effectivement, ça donne une image un peu telle que tu l'as décrite, de comment tu l'as connu un peu enfant. Et alors, tu es en train de me dire que le système de caste est totalement en train d'évoluer.
Le problème, c'est que ça, c'est ce que je disais aussi pendant les vacances et à mes potes, parce qu'ils sont français. Je disais ça change. Enfin, et même j'en parlais avec des membres de ma famille, ils me disent, mais ça, si tu veux... Officiellement, c'est interdit, discrimination sur le caste, mais il m'a dit ça, c'est. À la maison, ça persistera toujours, en fait. Parce que ça existe depuis plus de 3000 ans, en fait. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est un système où c'est une société différente, en fait. C'est trop dur de l'analyser comme nous, on le fait. Parce que nous, on a des valeurs qui sont totalement différentes ici. C'est égalité, machin. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, on dit ça, mais en fait, il n'y a pas d'égalité parce que. C'est juste que nous, on ne sait pas. Il y a des castes, mais personne ne le sait, en fait. Enfin.
On le voit très bien en Angleterre, où il y a. Selon l'accent que vous avez, l'école dans laquelle vous avez été quand vous avez entre 12 et 18 ans, vous n'êtes pas tout à fait égal avec les autres.
Ouais. Et si vous voulez, c'est un petit peu ça. Moi, c'est ce que je disais, il y a des castes en France, mais c'est juste qu'ici, on ne le sait pas, c'est tout. C'est mieux caché. Oui. Là-bas, c'est un peu plus visible parce que c'est plus accepté. Ici, ça l'est moins. La nouvelle génération essaie de changer un petit peu les choses, mais en soi, aujourd'hui, il y a ce que me disait un guide dans le Nord, à Agra, il me disait, tu sais, maintenant, il n'y a plus qu'une caste, Sylvain, c'est l'argent. Hein. Tu peux être un intouchable, si t'es riche, tout le monde s'en fout de ta caste. Et je lui dis, c'est très bien, moi, c'est méritocratique.
Ouais.
C'est bien, enfin. Voilà, moi, c'est ce genre de truc-là, à la limite, qui me permet de me projeter projeté en me disant bon, mais voilà, c'est un prisme différent qu'il faut avoir quand on va là-bas, c'est une planète aussi différente. Ouais. Hein,
je me pose la question parce que je me dis, est-ce que c'est pas aussi une condition de la réussite économique du pays, mm-hmm. de dire au final, bon, d'accord, t'es issu d'une caste inférieure, mais si t'as été très bon à l'école, si t'arrives à faire des trucs de tes 10 doigts, et à l'inverse, si t'es issu d'une bonne caste mais que t'es un bon à rien, je trouve que c'est potentiellement
en général,
un frein,
c'est ça, c'est les trucs qui font que moi j'ai jamais trop accroché aussi, et c'est pour ça pareil, moi j'ai jamais été très intégré à la communauté indienne en France parce que j'ai toujours eu une mentalité très différente de tout le monde. Moi, c'est pour ça que on m'appelle souvent le français. Hein, ouais. Et moi, je suis très fier. Et si vous regardez, au final, c'est moi qui ai eu raison au niveau des valeurs. Mais c'est que oui, moi, des fois, tu vois des enfants dans des hôtels de luxe, ils sont totalement cons et puis ils parlent très très mal au serveur parce qu'il est intouchable. Moi, j'ai envie de les claquer, quoi, tu vois.
Il faut les claquer.
Il faut les claquer.
Surtout que t'as le droit.
Alors, tout ce qui est caste, ça change. C'est-à-dire que dans les grandes villes, vous avez effectivement... vous avez une vraie avancée, c'est-à-dire que dans les grandes villes, Mumbai ou n'importe, c'est surtout dans les villages et dans l'Inde rurale que vous avez cette tradition, enfin, ces modes de fonctionnement qui fonctionnent encore très comme ça. Changer un truc comme ça, je sais pas, honnêtement.
Bon, ça prendra. Moi, vous savez, je raconte toujours cette vieille histoire. C'est pas l'histoire de caste, mais dans le sud-ouest de la France, mon père a pris sa retraite sur les coteaux de la Garonne, et il y avait deux familles qu'on voyait beaucoup, qui étaient très sympathiques. Et il y a une des deux familles qui a dit à mes parents, vous savez, vous ne devriez pas voir cette autre famille qu'on voyait beaucoup. Alors on lui dit, pourquoi? C'est parce qu'ils ont acheté des biens de l'Église pendant la Révolution française, vous savez.
Oui.
Donc deux siècles après, c'était pas des gens tout à fait convenables. Donc il y a des trucs comme ça qui
perdurent.
Qui perdurent. Et parfois ça passe dans l'inconscient. Mon père un jour a demandé au garage. Garagiste du village qui s'appelait Méric, qui était un nom visigothique. Le gars lui demandait pourquoi vous vivez dans les terres là-haut, mon colonel. C'est des esclaves là-haut. Alors, mon père ne savait pas. Donc, il est allé voir le curé du village. Je lui ai dit pourquoi il me dit que c'est des esclaves là-haut. C'est parce qu'au XIIe siècle, c'était des serfs dans les terres là-haut et c'était un homme libre sur la ville. Donc, huit siècles après, le garagiste du village, lui, il disait c'est des esclaves là-haut. Mais il savait pas pourquoi il disait ça.
Ouais.
Mais c'était il avait toujours entendu.
Ça se perpétue.
Ça se perpétue comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on voulait faire l'Europe en disant que tous les Européens sont pareils. Je me marre parce que entre un type de Toulouse et un type de Strasbourg ou un Corse, c'est pas vraiment pareil. Déjà, on a du mal à s'entendre entre Français. Alors s'il faut en plus rajouter les Belges et les Hollandais, on n'est pas rendu, les gars. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut jamais sous-estimer le poids de ces traditions. Et si elles sont restées, c'est ce que disait.
C'est qu'elles sont une utilité, alors.
C'est ce que disait cet éminent philosophe britannique. Il disait le conservatisme, c'est le respect des traditions qui ont survécu au temps.
Ouais.
Si elles sont là, c'est qu'elles avaient peut-être une raison. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais avant de les détruire.
Oui, c'est ça. Après c'est intéressant parce que c'est une question sur laquelle je réfléchis beaucoup parce que, pareil, j'ai pas la réponse complète et puis je creuse ce sujet, ce qui m'intéresse forcément, je trouve ça tellement, tellement différent de ce que j'ai connu ici. C'est franchement très intéressant parce que on sent aussi qu'il y a des différences de mentalité en fonction des castes et en fonction de, enfin, je sais même pas comment l'expliquer en fait. Il y a des castes qui sont des castes de guerriers, mais on les reconnaît tout de suite, ils sont tout de suite très agressifs, c'est comme s'il y avait une espèce d'épigénétique aussi où à force on a créé, parce que les castes de guerriers, c'était les castes qui servaient le roi. D'accord, les castes qui servaient le roi, c'est les Rajputs, ce genre de gens-là, ils devaient aller se battre et être prêts à mourir pour le roi. Et donc aujourd'hui, tu les retrouves souvent à des métiers, bah pareil, ils sont dans l'armée ou autre, et c'est des guerriers valeureux. Les Sikhs, par exemple, sont des guerriers valeureux.
Ah, tout à fait.
Et ils ont dans leur communauté, parce que c'est des communautés, les Sikhs, ils élèvent les hommes à être tout le temps très courageux. Ainsi qu'il peut mourir pour sauver un ami, quoi. Tu prends un mec d'une caste, par exemple, de confiseur. Ils ont pas du tout la même réaction. Donc c'est marrant parce que c'est tellement différent. J'ai l'impression d'être dans un film où on a créé comme dans Hunger Games, pour ceux qui connaissent, pour les jeunes, c'est, on a créé la caste, par exemple, des courageux, là, des téméraires, la caste des agriculteurs, ils sont gentils, la caste des altruistes. Et ben, ça, en fait, c'est comme s'il y avait ça dans le monde réel, et c'est incroyable, parce que les gens, tu sens aussi que dans les comportements, dans la culture, dans la façon de penser, ils sont différents. Nous, du côté de mon père, c'est une caste d'intellectuels, je le sens. Dans la famille, c'est que des gens qui réfléchissent tout le temps, c'est que des postes de formation. Mon grand-père était philosophe, il a écrit un bouquin, je m'en rappelle, j'en ai lu quelques pages. Et je me vois, même moi, au final, aujourd'hui, je suis dans l'industrie financière, mais qu'est-ce que je fais ?
Vous faites que réfléchir tout le temps ?
Je fais que réfléchir tout le temps, j'adore ce métier, j'adore ça, et j'ai monté une entreprise de formation. Donc au final... Ça impacte, parce que la culture familiale va impacter le développement.
Déjà, les traits psychologiques sont largement héritables, et puis on ajoute à ça l'éducation, la culture, c'est sûr. T'as un système de caste, même
donc,
sur le plan
psychologique. Imaginons maintenant votre futur dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Vous allez travailler entre l'Inde et la France, travailler en France.
On en a discuté hier. Il y a un pays que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment, c'est la Suisse. Parce que j'ai des amis qui ont mon âge, qui ont la trentaine, qui sont là-bas. Puis j'ai un ami qui a moins mon âge. Et s'il regarde la vidéo, il va tirer la gueule. C'est mon pote Olivier, qui effectivement m'a toujours dit, écoute, regarde du côté de la Suisse, parce que c'est des pays qui sont intéressants.
Pour ceux qui le connaissent, il est connu comme le Schtroumpf grognon.
Ouais, je pense que, à mon avis, les gens le connaissent, parce que dès que vous passez sur Thinkerview, il est avec vous.
Mais il est très connu par lui-même. Ouais. Mais je veux dire, c'est le Schtroumpf grognon. Il a un naturel bourru.
Oui, c'est sûr.
Il faut pas l'embêter. Il faut pas me l'énerver. Et non, c'est Olivier aussi qui m'a fait découvrir le pays en me disant, écoute, tu devrais considérer ce pays parce que c'est un pays qui est stable juridiquement, c'est un pays qui culturellement en tout cas est très intéressant. Et effectivement, leur culture est très intéressante. Ils sont relativement conservateurs, on va dire, sur les valeurs, mais très libéraux économiquement.
On peut élever des enfants en Suisse sans trop de difficultés.
Moi, mon futur, je le vois bien entre plutôt la Suisse et l'Inde. En attendant que la France, en tout cas, se reparte sur de bonnes rails, en fait. Hein, parce que je me reconnais pas forcément dans les valeurs portées par le pays actuellement.
Bah oui, vous êtes comme beaucoup de gens.
Et moi, pour élever mes enfants, j'ai besoin qu'on leur enseigne justement tout ce qui est... moi, je préfère les matières scientifiques, mais scientifique et littérature en premier, plutôt que changement de sexe ou ce genre de choses.
Oui, bien sûr.
Aucun intérêt, quoi. C'est des questions c'est des questions personnelles que chacun devrait se poser dans le cadre privé, mais pas dans le cadre d'une éducation.
Non, on peut pas organiser l'éducation autour du changement de sexe ou du fait que le sexe serait volontaire. Moi, j'ai 11 petits-enfants, j'ai eu 4 enfants, et je peux vous dire que les garçons et les filles, c'est pas noté pareil, quoi. Ça n'a rien à voir. Les garçons, d'abord, on passe leur temps à l'hôpital avec eux parce qu'ils se cassent la gueule tout le temps. Ils font des trucs imbéciles, les filles sont beaucoup plus prudentes. Enfin, ça, vous me direz que c'est des généralités, mais enfin, c'est ce que j'ai connu moi avec mes...
C'est vrai.
C'est vrai.
Ça s'explique par la science. C'est le taux de testostérone qui est plus élevé qui fait que les garçons ont besoin de se jauger les uns les autres. Ils se battent tout le temps pour savoir qui est le plus fort. C'est physiologique.
Et ils se battent pour savoir le plus fort parce que c'est le plus fort qui plaira aux filles.
Voilà.
Oui.
Mais c'est aussi trivial que ça. Et la question, c'est ce que je disais à ma femme, c'est le problème, c'est que pendant que nous, on se pose des questions un peu idiotes comme ça, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? En Inde, les gosses, ils sont en mode hyper scientifique. Ils ont des tutos pour apprendre plus facilement les maths. En Chine, pareil, en Corée, pareil. En Corée, ils sont encore plus détarés. Ils commencent à bosser à 5 ans. Ils ont des cours, des parcours d'excellence où les gamins, dès 5 ans, ils sont sous pression pour devenir des machines de guerre. Et ensuite, ils vont aux universités américaines, les Coréens, ils défoncent tout. Et l'Inde veut rentrer en compétition avec ça. Les Chinois, pareil. L'Asie du Sud-Est, l'Asie en tout cas, est dans cette optique-là. Moi, ça m'intéresse parce que ça.
C'est exactement l'analyse de Schumpeter. Vous avez pratiqué le capitalisme, le niveau de vie monte et du coup, vous investissez. C'est comme des fous dans l'éducation.
C'est ça.
Et pour faire le développement suivant, je trouve ça très bien. Et je vois pas où est le problème. Tandis que nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'éducation est devenue quelque chose de qui est presque garanti et que dans le fond, que vous fassiez des efforts ou pas, ça n'a pas d'importance.
En fait, on a pris ça pour acquis parce que c'est trop facile. C'est-à-dire que je dis souvent aux gens, donner quelque chose de gratuitement, c'est pas faire un cadeau aux gens parce qu'ils le considèrent pas à sa juste valeur. Exemple concret, je produis ma lettre économique ou celle avec Olivier, je la donne gratuitement. Les gens vont en lire 10%. Je la fais payer 50 000 euros. ils vont pas accorder la même valeur à cette lettre. C'est la même, mais intrinsèquement, ils vont en lire chaque centime, chaque détail. Le problème de l'école en France, c'est qu'on avait une instruction de haute qualité, on l'a donnée gratuitement, donc les gens, ils chient dessus, parce qu'ils disent, de toute façon, c'est gratos. Tu faisais payer 20 000 euros l'année, je te garantis que ton gamin, il vient à l'école à l'heure, il parle pas mal au prof, hein, et tout est carré, quoi. Et donc, je pense qu'on a peut-être pris pour acquis l'éducation qui est un cadeau, qui est un savoir, enfin qui est un privilège. C'est-à-dire qu'être éduqué, c'est un privilège.
C'est un privilège. Mais c'est ma grosse histoire, ça. C'est quand j'ai commencé mes études d'économie en première année à Toulouse, il y a bien longtemps, il y avait un bouquin qui faisait à peu près 200, enfin qui était gros comme ça, qui s'appelait, c'était le bouquin d'un économiste français qui s'appelait Marshall, et il coûtait 100 francs. Mais 100 francs à l'époque, c'est pas qu'un pour un étudiant, je peux vous dire. Et donc, je l'ai acheté, et bien j'ai tout lu.
Ouais. Parce que le coût à 100 francs. C'est pareil, quand j'étais en Allemagne, là, je passais mes. Parce que pareil, pour avoir le diplôme franco-allemand, il faut faire de la finance en allemand. Alors c'est, en fait, j'ai galéré non pas sur les concepts de finance, moi, c'est sur le vocabulaire.
Ah oui, évidemment, c'est
parce dur. Parce que portfolio management, portfolio Verwaltung, hein, tout ça pour dire gestion de portefeuille.
Ouais.
Voilà, moi, j'ai plus galéré à apprendre les mots en allemand. Donc, ce que j'avais fait quand j'étais à Berlin, parce que j'étais parti en stage, j'avais acheté un John Hull bouquin, mais en anglais, pour apprendre les concepts. En anglais, et ensuite, j'apprenais que le vocabulaire en allemand pour les partiels. Pareil, j'ai ce bouquin, je ne sais plus combien il m'a coûté, mais il coûtait relativement cher pour, en tout cas, mes maigres revenus de stagiaire en Allemagne. Je l'ai appris, mais jusqu'au dernier... Enfin, voilà, j'ai tout lu, quoi. Même la partie sur la programmation qui ne me servait à rien pour le partiel, parce que je me suis dit, je vais rentabiliser le bouquin.
Ouais, c'est sûr.
Et c'est ça, le problème, c'est qu'en France, on a donné une instruction de haute qualité, et on ne se rend pas compte à quel point c'est de la chance. Enfin, on a de la chance d'aller à l'école gratuitement. On se permet de parler mal au professeur comme si c'était le dernier des demeurés. Le mec prend quand même de son temps pour nous transférer de l'expérience. C'est le plus beau cadeau, au final.
Et ça, c'est nouveau, parce que je vous assure que dans ma jeunesse à moi, quelqu'un qui parlait mal au professeur... En plus, moi, quand j'étais à Auch pour passer mon bac, mon professeur de philo, c'était... j'étais en scientifique, donc je faisais pas très attention. Mais enfin, c'était un ancien commandant de la Légion agrégé de philo et qui était un copain de Marcel Cerdan. Donc, on a commencé à faire les cons. On était trois à faire les cons en classe. Et il nous a dit, bon, ben, je vous prends tous les trois à la sortie de l'école. Et ben, on n'a jamais plus fait les cons, quoi. Donc, il y avait une époque aussi où les professeurs, les hommes, les garçons, étaient enseignés par des hommes.
Mm-hmm.
Et donc, les hommes allaient voir le gars, et les yeux disaient, je t'attends à la sortie de l'école. Si tu continues à me casser les pieds, je te casse la gueule. Ben, ça inspirait un certain respect aux garçons de 18 ans.
Moi, mon père m'expliquait que quand ils étaient petits, eux, à l'école...
Ils ramassaient des coups, non?
Il mettait les mains comme ça et le professeur, ouais, avec la baguette, tac, sur les doigts.
Mais
il m'a dit, ça filait droit. Il n'y a personne qui faisait, de bêtises. Il me disait, mon grand-père, parce que mon père, à un moment donné, était dans la classe de mon grand-père. Il m'a dit, alors là, mon père, il était très sévère. Hein. Enfin, ton grand-père, Sylvain, il était très sévère. Je lui dis, bah, ah bon, papy, il était sévère, parce que nous, il est gentil avec nous. Il m'a dit, ah, bah, c'est simple, les mecs, ils ne mouffetaient pas. S'il y en avait un qui faisait le con, les doigts comme ça, tac, le coup de la baguette. Personne ne faisait...
Non, mais c'était une vision différente. C'est-à-dire que peu importe la méthode, il fallait obtenir un résultat. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On évalue plus le résultat. On dit le résultat,
tout
au final,
le bec,
on s'en fiche. L'essentiel, c'est que les enfants, ils se sentent bien à l'école, etc., qu'ils se sentent épanouis. Donc, si on estime à partir d'aujourd'hui qu'apprendre à lire, à compter, à réfléchir, c'est fasciste, et ben, en fait, on va leur dire, bah, au lieu d'apprendre à lire, va faire 5 heures de pâte à modeler et tu seras très bien comme ça. Et au moins, c'est pas fasciste. Alors on n'a aucun résultat, mais au moins ça va, quoi.
Pour faire des ponts, soigner un cancer avec de la pâte à modeler, c'est difficile.
Ah oui,
il y a un moment où il faut quand même apprendre des réalités, quoi. C'est ça qui m'étonne.
C'est ça qui est dommage, c'est que on a tué la jeunesse, pour moi aujourd'hui est foutue, hein. Et c'est aussi pour ça que je crois plus au modèle démocratique en France, parce que ce que je disais aussi alors ça peut paraître cynique, mais pour moi, ça me paraît très logique. Aujourd'hui, vous prenez un chercheur qui est marié à une chercheuse. Les deux vont travailler, vont partir au boulot à 8h et reviennent à 20h. S'ils ont le temps de se parler 2 heures dans la journée et puis de faire un enfant, ou peut-être même deux, bah c'est déjà bien. Vous prenez quelqu'un qui travaille pas aujourd'hui. Sa femme ne travaille pas non plus. Ils ont toute la journée pour faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pondre 10 gamins, parce qu'en plus, plus ils en font, plus ils ont d'aide sociale. Eh ben, quand va venir le temps des élections, qui aura le plus d'influence au niveau des votes? La famille de 10, pas la famille de 2. Donc la famille de 2 va voter pour des choses et un programme potentiellement logique. Et la famille de 10, moins éduquée, malheureusement, bah, sera plus sujette à être manipulée par des beaux discours. ne travaillez pas et j'augmente vos subventions, vos allocations familiales de 50% à partir du 12e enfant. Oh bah super, je vote pour toi. Bah il y a 10 votes ici versus 2. Ce qui fait que logiquement on finit par avoir une société en fait d'idiots dirigés par des idiots, et c'est triste, hein, c'est cynique, mais
c'est ce que s'appelle l'ineptocratie. J'ai écrit de long papier sur l'ineptocratie. Voilà. C'est quelque chose que les gens peuvent retrouver. Donc, comme toujours, tout redémarrera d'une renaissance de l'éducation. Et cette renaissance de l'éducation, il n'est pas impossible qu'elle passe pas pour une fois par des universités ou des professeurs, mais peut-être par ces instruments lunettes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ceux qui veulent apprendre, en partant du principe qu'il n'y en a que 20% qui ont vraiment envie d'apprendre. Pour l'instant, on ne leur apprend rien, c'est 20%, et c'est eux qui faisaient tout le pays. Mais si ces 20% ont envie d'apprendre, ils peuvent apprendre presque tout seuls maintenant avec ces outils s'ils en ont envie. Et c'est pour ça que je ne suis pas complètement pessimiste, je me dis... Ils se mettent sur des programmes, ils apprennent des trucs et finalement ils sauront. Parce que, soyons honnêtes, vous avez accès à tous les livres, toutes les bibliothèques, tous les savoirs du monde à partir de votre chambre à coucher si vous le voulez.
C'est exact. Moi, j'ai ce que je disais à Léonard juste avant. Moi, j'apprends tout sur YouTube. J'ai même appris à faire un peu de mécanique sur YouTube. Enfin, ma femme, elle adore. Elle me dit, mais t'es un malade. Parce que, en plus, j'ai un tempérament un peu obsessionnel. C'est-à-dire, quand j'aime bien un truc, j'y vais à fond.
Ouais.
Les échecs, pareil. Je me suis dit, un jour, j'ai joué, puis je me suis mis à fond dans les échecs, comme ça. Enfin, et c'est ce que j'ai dit à tout le monde. J'ai dit, moi, j'ai tout appris sur YouTube. C'est-à-dire que mon business, quand je l'ai lancé, ce que je te disais, c'est que, au lieu de payer un mec qui me fait le développement du site web, etc., je me dis, bon, ça coûte cher, tout ça. Donc, si je fais ça, bah, logiquement, la boîte sera jamais rentable. J'ai appris tout ça sur YouTube. J'ai appris à créer un site web sur YouTube, à faire des campagnes de mailing sur YouTube, à créer des automatisations sur YouTube. Enfin, tu cherches sur Internet, une après-midi, tu as trouvé la réponse à toutes tes solutions. Il faut être un peu débrouillard et il faut aimer apprendre. Le mec qui adore apprendre, qui est stimulé par ça, voilà, il s'éclate. Et tu peux apprendre sur tous les sujets. C'est-à-dire que...
Absolument. Quoi que vous intéresse, vous le trouvez.
Facile. Il faut juste apprendre à faire des recherches sur Google. Tu creuses un peu, et puis tu peux sur tous les sujets,
J'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est une étude, il y a 7-8 ans, j'avais lu ça, j'en étais mort de rire. Justement, en Inde, dans je ne sais plus quelle énorme bidonville, dans je ne sais plus quelle grande ville, ils avaient décidé de mettre des ordinateurs branchés, mais sans programme, sans rien. Et les petits gamins indiens qui étaient là, qui étaient littéralement les enfants du ghetto, là, qui étaient là, ils sont pas approchés du truc, ils ont gardé, ils sont revenus 5 ou 6 mois après, et les types, ils discutaient des maths quantitatives ou je sais pas quoi. Donc les gamins avaient appris tout seul à programmer, à atteindre le net, etc. Ils avaient tout appris tout seul. Et personne ne leur avait appris.
Non, mais c'est typiquement indien, ça c'est vrai. C'est la culture de ce qu'ils appellent jugas, c'est-à-dire de la débrouille, c'est-à-dire que vous faites avec ce que vous avez. Et ça c'est intéressant parce que moi j'ai toujours eu ce truc de la débrouille, c'est marrant, c'est avec des moyens limités, c'est un peu aussi l'esprit de l'armée française, c'est avec des moyens limités se débrouiller pour atteindre un résultat qui
l'armée française.
Mais l'armée française le fait très bien, ça aussi.
Le fait très bien, c'est ce que par rapport à l'américaine, il faut toujours qu'il y ait une quinzaine de mecs qui s'occupent des blessés, etc. Alors que dans l'armée française, il y en a un qui s'occupe des blessés à mi-temps, puis qui ira tirer sur les autres à l'autre
moment. Ça, c'est une armée qui est très, très compétente, enfin, honnêtement. On a une des armées les plus compétentes du monde, c'est-à-dire très peu de moyens, beaucoup de résultats.
Une des prochaines choses qu'on devrait faire en France, d'ailleurs, c'est rebâtir l'armée à toute allure, parce qu'on va en avoir besoin, mais ça, c'est un autre débat. Mais écoutez, ça me fait plaisir, parce que vous voyez, vous êtes quelqu'un d'intéressant, parce que vous êtes vraiment indien et vraiment français. Et ça prouve qu'on peut être, que ça n'est pas exclusif, qu'on peut être un très bon indien, un très bon français, et les deux s'entendent assez bien, quoi. Vous n'êtes pas déchiré entre vos deux racines.
Non, dans la mesure. Alors. Ça c'est intéressant parce que ça c'est une discussion que j'ai beaucoup avec des amis qui ont des origines étrangères, et s'il y en a qui nous regardent aujourd'hui, je peux vous expliquer mon processus. Moi ce que je dis souvent, c'est qu'il y a... alors après c'est mon fonctionnement à moi, il faut faire un choix, on peut pas être les deux, c'est à dire qu'en gros il faut choisir une dominante, et c'est un peu comme la loi de Pareto, 80-20. Donc est-ce que tu veux être 80% par exemple indien ou 80% français, et ensuite t'as une minoritaire, et voilà. Moi j'ai toujours fait le choix depuis petit, parce que j'ai toujours moi ça a commencé par la bouffe, en fait. C'est comme ça que la France m'a gagné. C'est avec le saucisson.
Le vin rouge, oui,
et les saucissons et les pinards. Donc moi j'ai toujours choisi d'être français avant d'être indien, et c'est aujourd'hui à l'âge adulte que je m'intéresse à la culture indienne, mais peut-être même un peu tard, mais pas trop tard, enfin à la limite moi c'est très bien, mais je pense qu'il faut toujours choisir une dominante, et on peut pas être à 50-50, parce que ça ne marche, enfin Sinon, ça veut dire qu'on est sans cesse une espèce de personne sans colonne vertébrale. On est un espèce de... On peut pas être solide si on est les deux. Il faut un tronc et des ramifications, mais pas un moitié de ramifications. Ça n'existe pas, en fait.
C'est très intéressant, ça.
Donc il y a un vrai choix. Donc qui dit choix dit renoncement, dit sacrifice. Mmh. Donc après, on perd des choses. Par exemple, une des questions qui s'est posée, c'est je me suis dit à un moment donné. Bah, vu ce que devient la culture française, c'est-à-dire un peu wokisme machin, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que bon, dans les valeurs indiennes, il y a aussi la famille qui est forte, le respect de la hiérarchie, de la patriarche, enfin du père, de la mère, etc. Enfin, il y a plein de valeurs qui me parlent beaucoup. Et je me suis dit, putain, au final. Et après, je me suis ressaisi. Bon, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Il faut plutôt avancer. Il faut prendre le mieux de chacun, en fait. Mmh. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre ce qui marche bien en Inde, je vais l'emmener en France. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, moi, je suis culture française, donc je peux très bien ramener les meilleures choses qu'il y a là-bas et les faire découvrir à mes potes français ou à mon audience française. Comme ça, on améliore, on monte en compétences.
Le curry. Voilà. Le curry.
Voilà, le curry. Voilà. Très bien.
J'adore le curry.
Les dindes au fromage. Et pareil, par contre, ça, c'est aussi un truc que j'ai envie de développer en Inde, c'est ramener, parce que je sais qu'ils sont très friands de la culture française, c'est ramener aussi beaucoup de bonnes choses de France. Ils adorent tout ce qui est français. Maintenant, vous avez d'excellentes pâtisseries françaises en Inde, ça, j'adore. Les pâtisseries que je mange là-bas sont meilleures que celles que je... Parce qu'en France, maintenant, on fait du surgelé.
Voilà.
Alors que là-bas, ils sont encore en mode artisanal, il y a des artisans français qui viennent, qui font du vrai travail, qui font
le pain.
Ah oui.
Le vrai pain français, qu'est-ce que c'est bon ce truc.
Et oui.
C'est grossissant, malheureusement.
Et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artisans et il y a une vraie prime si vous êtes chef d'entreprise ou artisan français. Allez regarder du côté de l'Asie, ils sont prêts à payer des sommes absolument folles pour accéder à ce savoir-faire qu'ils valorisent réellement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer cher pour manger des bons produits français et ils aiment les Français. C'est quand même. Entre gagner 2000 euros ou 3000 euros en France et se faire taxer 50% de ce qu'on gagne par Macron versus monter une boîte en Inde, gagner peut-être 10-15 000 balles par mois et en plus les gens t'adoreront parce que t'es français, vous avez une vraie prime, je pense.
C'est sûr. Donc allez faire un tour en Inde.
Voilà.
Bon, alors c'est vendredi soir, quelle heure est-il là?
Oh, on a encore, on peut y aller encore un peu. Hein.
On peut encore y aller un peu. Ouais. C'est juste parce que je veux pas retenir notre ami là. Il est jeune marié et tout. Il faut pas le séparer trop longtemps de sa femme.
Mais alors, par exemple, récemment, vous avez fait avec Emmanuel une vidéo spéciale sur l'Inde. On en parle beaucoup en ce moment. Vous avez fait un article aussi là-dessus. Je me souviens dans Conflit, il y a pas très
longtemps.
Conflit,
c'est lui qui l'avait fait dans Conflit. Mais ça fait à peu près un an et demi ou deux ans qu'on attire l'attention de nos... Parce que quand il y a eu la bagarre entre la Chine et la Russie, tout le monde a dit, bon, mais c'est foutu pour l'Europe. La Russie va vendre toutes ses réserves à la Chine. Bon, bref. Et donc, on a regardé ça avec mon fils pendant un grand moment. Puis à un moment, on a dit, bah, écoutez les gars, vous voyez pas les couloirs qui sont en train de s'ouvrir du nord au sud entre l'Asie centrale et l'Inde. Et donc, c'est l'Inde qui va être en fait le principal bénéficiaire du conflit russo-ukrainien, etc. Et donc, on s'excite beaucoup sur l'Inde. La bourse est beaucoup montée. Bon, mais ça, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est tant mieux. Mais
il bénéficie d'un appel d'air qui est énorme. C'est-à-dire que les tensions entre la Chine et les États-Unis ont profité à l'Inde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a...
Ils ont un ministre des Affaires étrangères qui est au poil. Oui. Le ministre des Affaires étrangères, il est marrant comme tout. Ouais. Chaque fois que je l'écoute, je me dis, ah ben celui-là, il est habile.
Oui, bah, il est très acerbe.
Il est très habile. Hein,
et en fait, ils ont récupéré les usines, par exemple, Apple, qui sont parties de Chine en Inde.
Ouais.
Et ils ont donné des crédits d'impôt. Enfin, en fait, aujourd'hui, si vous investissez en Inde, ce qu'on m'avait dit, c'est que dans certaines régions, on vous donne un terrain, on vous donne des subventions pour que vous payiez moins d'impôts, on vous donne même de l'argent. Donc, vous êtes investisseur, vous voulez monter un projet dans certaines régions. Il faut bien choisir son État, parce que chaque État a ses propres règles. On peut vous subventionner, vous donner un terrain, on peut faciliter les embauches. Et il y a Gift City, dont on parlait tous ensemble juste avant. Une région dans le nord de l'Inde où ils veulent faire une espèce de free zone à la Dubaï. Vous créez une entreprise à Gift City, donc c'est Gujarat International Financial and Trade, je sais plus quoi. Et l'idée, c'est qu'ils veulent attirer les entreprises financières, les entreprises internet, e-commerce et tout ce qui est technologique, donc tout ce qui est IP, enfin propriété intellectuelle. Vous payez pas d'impôts 10 ans sur 15, guichet unique pour ouvrir son entreprise, vous venez à un guichet, c'est simple, tout est fait en moins de 2 semaines. Pas de taxes sur les dividendes, pas de taxes sur plein de choses. Je me suis dit, putain, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, là ils sont, parce que j'ai vu, en fait, il y a l'appel d'air de tous les riches indiens qui vont mettre leur argent à Dubaï. C'est l'équivalent de la Suisse pour l'Inde. Entre Maurice et Dubaï, c'est à peu près là où ils vont tous. Et là, je me suis dit, ah, ok, donc là, il a compris, enfin, le gouvernement a compris que ces mecs-là, ils vont tous planquer l'argent ailleurs. Donc, ils se sont dit, bon, on va créer une espèce de free zone et on va réintroduire, enfin, India First. Et là, je me suis dit, bon, ok, il est intelligent, il est pas trop con. Et je trouve que Modi a fait un bon boulot. Ça m'intéresse, je vais y aller cette année. Mais dans cette région du Gujarat où je n'ai moi jamais été, mais ils sont connus pour être de très bons commerçants.
Ouais. Alors, si vous y allez et que vous revenez avec des bonnes idées, vous revenez nous voir.
Avec grand plaisir. De toute façon, ils veulent développer leur marché, leur place financière. Gift City, ça sera de toute façon un hub financier. Donc en fait, moi, je vois très bien l'idée sous-jacente, c'est de faire un Dubaï. En fait, les Indiens...
Plutôt que d'envoyer les Indiens à Dubaï bosser, ils disent qu'il ferait mieux de rester en Inde et de bosser à Gift City.
Ils vont bosser à Gift City.
Et même d'attirer aussi des gens du monde entier.
Oui, parce qu'en fait, Modi aussi a un projet pour le peuple qui est assez intéressant. C'est-à-dire que lui, il veut recréer l'Inde... un peu comme Erdogan fait en Turquie. Il veut créer l'Inde fière d'elle-même. C'est-à-dire que c'est... C'est l'Inde, il veut l'appeler. Enfin, l'Inde à la base, ça s'appelait Hindoustan. Donc, c'est Stan, c'est pays, et Indo, c'est pays. Pakistan, c'est le pays des Pakis, par exemple. Donc, lui, il veut recréer cet Hindoustan, en fait. C'est-à-dire ce royaume des Indos, en fait. Et c'est intéressant.
Et d'ailleurs, récemment, il a renommé le pays aujourd'hui, le Bharat.
Ouais. Oui, bah il est dans cette logique-là, en fait. Hein. Il est dans cette logique de recréer l'Hindoustan, la terre des Indos. Je pense que c'est un pays qui repartira un peu en royauté. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas un. Je pense pas, moi, alors c'est très personnel, hein, mais je pense pas qu'on construit quelque chose de grand en ayant un système démocratique, dans le sens où tous les 5 ans, celui qui commence à créer un truc de long terme est détruit par le mec qui arrive juste après. Pour avoir un plan stable sur 10, 15, 20, 30 ans, il faut en fait faire comme en Chine, c'est-à-dire que vous avez un groupe d'individus éclairés qui doit être très, très éthique en même temps, hein, qui s'en met plein les poches, mais qui doit œuvrer dans un but, et ensuite... avoir une certaine stabilité au pouvoir, parce que ce que vous mettez là, si vous le détruisez 5 ans après, aucun intérêt, en fait. On construit rien en 5 ans. On construit alors plutôt en 20.
Il y a une stabilité du droit énorme, comme c'était aux États-Unis pendant 2 siècles avec leur constitution, mais on voit bien que c'est en train de sauter maintenant. C'est
mais
ça le problème.
Quoi. Est-ce que c'est pas justement un peu le problème de la Chine aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils ont eu cette phase un petit peu plus libéralisée.
C'est une nation qui a été battue par un groupe d'ingénieurs à la base. Hein.
Ouais.
Donc c'était des nations qui étaient très cartésiennes. Alors maintenant, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que la passation entre l'ancienne génération et la nouvelle, c'est toujours là les points de rupture, en fait. Hein. C'est les transitions qui sont très dures. C'est-à-dire qu'il faut réussir à former la relève de son vivant, c'est jamais acquis, parce que les défis que ton enfant ou ta relève aura à surmonter ne seront pas les mêmes que les tiennes. Donc, ça sera une histoire différente. Ça sera un management différent.
C'est ce que disait ce brave Toynbee, qui disait que le truc important, c'était les élites, parce que les élites sont là pour un petit peu traiter les problèmes, les challenges, et que si l'élite ne traite pas le problème, il revient d'une autre façon. S'il n'est pas traité, il revient encore d'une autre façon, mais à chaque fois plus grave. Et puis à un moment, si le problème n'est jamais traité, comme les guerres franco-allemandes par exemple, ça détruit le pays, ça détruit la classe politique, ça détruit la civilisation, ça détruit tout. Quoi. Mmh. Donc vous avez différentes possibilités d'échecs. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple en France, la constitution de la 5e qui avait été faite pour régler les problèmes, par exemple, de la fin de la colonisation, n'est plus du tout... Elle marche plus du tout. Quand on a un système de désignation des élites où on a que des crétins diplômés qui arrivent. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment remplace-t-on ces élites pour qu'ils puissent vraiment s'attaquer aux problèmes fondamentaux de la France? Et si on n'y arrive pas, il n'est pas certain que la France survive.
Pour moi, si vous voulez, j'avais réfléchi à une solution en me disant quel serait l'avenir de la France dans un scénario idéal, ou en tout cas, enfin, j'aime bien réfléchir à cette question, elle me chauffe bien. Et je m'étais dit que la vraie réponse était dans la décentralisation pour une raison
bien
qui
sûr,
est simple.
Bien sûr.
C'est qu'en fait.
Ou alors choisir le truc suisse, c'est-à-dire tout le monde vote sur tout, puis comme ça c'est vraiment.
Ça marche pas parce qu'il faut une population éduquée. C'est-à-dire que si vous avez une population qui est très peu éduquée, ils vont donner leur avis.
Les Suisses, ils ont bien commencé à voter au départ, ils n'étaient pas éduqués. Hein. C'est tous des bouseux, et puis ils sont arrivés quand même. Hein.
Oui, c'est intéressant, mais le problème
c'est
qu'on.
Moi je crois que le problème c'est si les élites sont trop éduquées. Pensent qu'elles sont au-dessus des autres. Le problème de la France, c'est pas la population qui n'est pas éduquée, c'est les crétins au-dessus qui pensent qu'ils sont plus éduqués que les autres.
Mais une organisation par région, c'est intéressant parce que si vous voulez, les problématiques que vont gérer, enfin, qu'auront à gérer, par exemple, les gens à Toulouse ou dans le Sud-Ouest, ne seront pas les mêmes que les gens du Haut-Rhin, qui ne seront pas les mêmes que les Bretons. Et ça peut être plus intelligent de traiter les problèmes localement. Alors, bien évidemment,
toujours.
Quand on est le roi et qu'on veut une centralisation parce qu'on veut tout contrôler, c'est chiant. Parce que forcément, il y a des contre-pouvoirs.
Ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Oui, c'est-à-dire les problèmes locaux doivent être traités.
C'est les lenders en Allemagne. Mais c'est ce qui est le plus logique, en fait, quand on réfléchit. Parce que c'est là où tu vas traiter, de façon sur mesure, le problème
local.
Auquel tu as face.
Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le modèle américain. Alors, je pense pas qu'il soit vraiment applicable à la France pour des questions d'échelle, mais j'aime bien l'idée que dans le même pays, sous une même administration fédérale, on puisse quand même choisir globalement un modèle de société. C'est-à-dire que t'as des États, en plus de ça, qui se différencient de plus en plus depuis quelques années. Tu choisis le Texas ou la Floride comme modèle de société. Je pense que c'est la Californie.
Et je pense, Léonard, qu'au contraire, c'est possible en France pour une raison qui est simple. Vous allez en Bretagne et vous venez dans le sud-est, par exemple, chez nous à Nice.
Oui.
C'est deux populations différentes.
Ah oui, ça, c'est vrai.
C'est deux mentalités différentes. Ça n'a rien à voir. Le Nissart ou les gens dans le sud-est sont très, très fiers, sont très machins. Vous allez en Bretagne, c'est des gens qui sont très accueillants, très ouverts. Enfin, moi, j'adore les Bretons. Bah, je suis né à Vannes. J'adore la Bretagne. Et ce que je dis souvent, c'est que s'il y avait la météo du sud-est en Bretagne, ça ferait bien longtemps que j'aurais
fait toujours pareil. C'est comme il n'y a rien de mieux que la campagne anglaise quand il fait beau. C'est superbe, ça. Il y a les jardins anglais quand il fait beau, il n'y a rien de plus beau.
Je pense que c'est possible de créer justement cette idée de subsidiarité, parce que quand j'ai habité à Toulouse, par exemple, c'est toujours pareil. C'est des régions qui sont très chaleureuses, mais chaque région a son fonctionnement. Vous allez en Haute-Savoie, ça n'a rien à voir. En
Allemagne, Haute-Savoie, d'abord, ça aurait dû être indépendant. Toute la Savoie aurait dû. C'est un pays qui aurait dû exister, la Savoie, mais qui n'a jamais existé. C'est pas parce que c'était un pays qui était horizontal à la place d'être de nord au sud. Donc ils ont, les pauvres Savoyards, ils ont, parce que vous regardez la carte de l'Europe, vous partez de la Savoie, vous passez dans la plaine du Pô, vous remontez vers la Bavière, toute cette espèce d'immense arc de plaine autour des Alpes, c'est la région la plus riche du monde.
Ouais.
Tous ces gars-là, c'est des gars les plus travailleurs, les plus inventifs, les plus, et ils ont jamais réussi à faire un pays entre eux.
Ouais.
C'est marrant quand même. Ils ont toujours été bouffés par les gros à côté.
Ouais, c'est vrai.
C'est marrant ça, c'est. Bon, ben on va y aller parce que c'est vendredi soir et puis qu'on n'est pas sur Terre pour rigoler. Donc, on est content de vous avoir rencontré parce que vous êtes, dans le fond, une espèce de représentation de ce qu'est une France qui serait à la fois française et étrangère aussi. Donc, on prouve qu'on peut y arriver.
Mais il y a un choix à faire, oui, c'est ça.
Vous avez été élevé par des parents qui vous ont transmis ces valeurs. C'est-à-dire qu'il est difficile de les avoir tout seul. Vous auriez été laissé dans la nature, je ne sais pas ce que vous auriez donné tout seul, c'est que vous avez probablement reçu beaucoup de vos parents.
Alors j'ai reçu, on va dire, la gratitude de la part de mes parents, dans le sens où ils m'ont toujours enseigné à respecter les gens qui sont bons avec, en gros, hein, tu ne mords pas la main qui te nourrit, donc tu es en France, tu dis pas nique la France. Voilà, ça c'est l'éducation que j'ai reçue. Après, ce chemin et ce parcours, il est très personnel, c'est-à-dire que c'est aussi moi qui ai voulu creuser, parce que j'aime bien le pays. C'est une question qui est très personnelle. Les gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans cette situation, qui ont, on va dire, deux cultures, et j'en connais beaucoup, souffrent souvent de ce syndrome de pas savoir à qui ils appartiennent. Je dis, à partir du moment où vous faites ce choix, la vie devient plus simple, parce que quand tu te dis, je suis français, qu'est-ce que tu risques au final? Le mec en face de toi qui est français, il va jamais te cracher dessus en te disant t'es un noir, t'es pas français. Et à la limite, peut-être que le gars qui a ta couleur de peau et à qui tu dis que t'es français, il va te dire t'es un blanc. Ok, bah super, mais c'est fini. Donc il y a pas vraiment de risque à choisir. Ou tout comme le contraire, si je dis que je suis indien, pas de souci, je vais vivre en Inde machin, je m'habille traditionnel. Et le français m'en voudra pas. Il me dira très bien, il veut être indien, il fait l'indien, donc il y a pas de souci. Il faut juste faire ce choix et être courageux dans son choix et l'assumer. À partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a pas de réel danger à choisir, en fait. C'est un choix et ça libère l'âme. Enfin, c'est-à-dire que la vie est beaucoup plus simple. Ouais. Une fois que tu as choisi ton identité, entre guillemets, c'est facile.
Après, ça aussi, t'en as parlé. Forcément, l'identité française et l'identité indienne ne sont pas forcément conflictuelles entre elles. C'est sûr, c'est plus difficile, pour un Algérien, par exemple, parce que les Algériens vivent depuis 60 ans.
Les Indiens, en fait, c'est comme les Français. C'est-à-dire qu'ils accueillent un peu tout le monde chez eux et après, une fois qu'il y a des emmerdes, ils gueulent. Donc, c'est toujours pareil. C'est quand vous allez en Inde, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a tout le monde qui vient. C'est très libre. Et ensuite, une fois qu'il y a les conflits, ils vont gueuler, tu vois.
Ouais.
Mais c'est des cultures qui sont très ouvertes, en fait, à la base, et qui respectent plus ou moins les...
Je crois que ce sont des cultures qui disent, si vous m'aimez, vous êtes le bienvenu.
Voilà, et donc...
C'est ça, la base de la France, c'est si vous vous sentez... N'importe qui peut se sentir français, mais il faut que vous aimiez ce pays. Si vous aimez ce pays, vous êtes le bienvenu, que vous soyez blanc, marron,
c'est ça,
jaune, bleu foncé, tout le monde s'en fout, mais il faut que vous aimiez.
Voilà, c'est plus ou moins le même fonctionnement là-bas. C'est très compatible, en fait. Il y a beaucoup de Français que vous voyez en Inde, hein, vous en croisez beaucoup, de plus en plus d'Italiens, de Canadiens et de Français. C'est pas déconnant, c'est parce que ça marche bien ensemble, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, on vous laisse faire le choix.
Voilà.
On vous impose pas quoi que ce soit. Vous êtes,
vous êtes tout à fait libre. Non,
c'est un choix qui doit venir effectivement du cœur.
Du cœur, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ouais. Donc, merci de venir nous voir. Je suis content de vous avoir rencontré.
Mais merci à vous de m'avoir invité.
J'espère qu'on gardera le contact. Et puis, en route vers de nouvelles aventures, quoi, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Mais ouais. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne va pas s'ennuyer.
Oh non.
C'est sûr. Et puis, bah, j'espère qu'on te recevra de nouveau.
Avec plaisir. Merci de l'invitation à vous deux.
Et merci d'être venu. Et aux auditeurs, merci d'avoir regardé ou écouté. Et je vous dis à très bientôt à l'Institut des Libertés.
Voilà.
Merci
encore. Et n'oubliez pas le pouce. Il y a des
bien sûr,
vous abonnez, le pouce.
Mettez un commentaire, même ça.
Mettez un commentaire. Attendez, il y a aussi autre chose que vous dites toujours, c'est...
Ah bah que toutes ces émissions, elles sont disponibles en format podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, etc. etc.
Il faut que je rappelle cette voix.
Ouais. Parce que maintenant, c'est comme l'éducation, ça devient un acquis, en fait. Donc encore merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur
l'Institut de la Liberté. Ne voulez pas oublier tout.